Radio Okapi. Le journal, présenté par Belinda Bossouma.
Les états généraux de la justice, les syndicats des magistrats rapportent plusieurs irrégularités dans l'organisation de ces assises. Ils le disent dans un communiqué conjoint publié lundi, mais le porte-parole du ministre de la Justice qualifie la déclaration des syndicats des magistrats d'intempestive et les appelle au bon sens. Situation sécuritaire volatile à Kasongo dans le Maniema. L'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial se disent préoccupés. Les deux institutions lancent un appel à tous les sèmeurs des troubles de privilégier la paix. Et puis, l'invité de ce matin, Francis Albert Kangwem, représentant de la Fondation Hirondelle en RDC, il nous parle de la formation que dispense cette organisation en faveur des journalistes de Goma. C'est sur la lutte contre la désinformation. À tous et à toutes, bonjour. États généraux de la justice. Après 5 jours de travaux dominés par des exposés des panélistes venus de tous bords, les syndicats des magistrats font leur évaluation et relèvent plusieurs irrégularités dans leur organisation, Ils disent constater avec amertume la théâtralisation dans le déroulement des travaux. Ils le disent dans un communiqué conjoint. Jussi, Sinamac, Syncrémac et Simco disent redouter que les objectifs poursuivi par ce forum n'y soit pas atteint. Il est à noter une pléthore des participants constitués à majorité des membres des partis politiques, notamment nos GEC et des étudiants. Jeff Ngoy nous en dit plus.
Henri Dianda, président du Syncrémac, énumère quelques irrégularités.
Le Conseil supérieur de la magistrature et les autres acteurs majeurs de la justice n'ont pas été associés dans l'organisation des présents travaux. La très faible prise en charge des participants, en particulier les magistrats venus des provinces. Le fonctionnement occulte du secrétariat technique dont les membres ne sont pas connus des participants. La sélection orientée des intervenants, le temps des travaux en atelier réduit à un seul jour risque de rendre superficiels les débats.
Ces bruits proviennent des militants des partis politiques et parfois des étudiants, soit pour applaudir certains panélistes favorables à leur opinion, soit pour conspuer les magistrats syndicalistes qui rappellent leurs revendications et dont le temps de parole semble réduit, d'après Edmond Issoufa d'Issinamac.
L'impression que nous avons ici, c'est que ce n'est pas des états généraux où nous devons échanger, mais ce sont des attaques dirigées contre les magistrats et ce qui semble ne pas être normal. À cette allure, on ne va pas aboutir à quoi que ce soit. Ne nous donnons pas l'impression comme si quelque chose étaient déjà boutiqués et nous sommes simplement venus pour accompagner.
Dans les couloirs du centre financier, une dame expatriée s'étonne de ce qu'elle qualifie de désorganisation. Ce n'est pas cela, les états généraux qu'on attendait, nous déclare-t-elle dans l'anonymat.
En réaction, le porte-parole du ministre de la Justice et garde des Sceaux affirme que les travaux des états généraux de la justice se déroulent normalement jusqu'ici en attendant les recommandations qui vont aboutir à la thérapie de la justice congolaise. Selon maître Yves Kisombe, la déclaration de ces syndicats est intempestive car les réflexions pendant ces assises répondent aux attentes et aux objectifs poursuivis. Il appelle ainsi ces syndicalistes au bon sens. Maître Yves Kisombe au micro de Grâce Hamzati.
Nous tirons tout doucement vers les conclusions de ces assises qui se déroulent convenablement. Tout se passe très bien. Il s'agit des états généraux. Il y a des réflexions, il y aura des recommandations pour l'action parce que la justice est malade et il lui faut une thérapie. Je pense que nous sommes pour l'apaisement, pour la sérénité des débats et des analyses. Je déplore au nom du ministre des la dérive corporatiste de ces syndicats de magistrats dont les déclarations intempestives n'ont pas lieu d'être. Les réflexions sont internes. Il y a d'ailleurs une couverture médiatique suffisante de ces assises, comme de toute question d'intérêt national. Et honnêtement, le caractère peu républicain, offensif, offensant de ces déclarations n'apporte rien au débat. Je pense qu'il faut de la sérénité, de la concertation. Nous sommes tous, chacun à sa place, intéressés par la résolution des problèmes de la justice.
Dans l'actualité aussi, la députée nationale Hermione Bolumbe, élue de Moamba ici à Kinshasa, a déposé hier au bureau de l'Assemblée nationale une question orale avec débat adressée au directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL. À travers sa démarche, elle dit vouloir amener le numéro 1 de la SNEL à dresser devant la représentation nationale l'état des lieux de cette entreprise de l'État. Explication Blaise Ndongala.
Au sortir du bureau de l'Assemblée nationale, d'où elle a déposé sa question orale, Hermione Bolumbe a expliqué aux médias l'essence de sa démarche. Cet élu du Moamba a expliqué avoir invité le directeur général de la SNEL à venir expliquer à la représentation nationale ce qui se passe réellement au sein de son entreprise. Parmi les griefs retenus, elle dit ne pas comprendre que la SNEL puisse inciter les entreprises minières à acheter du courant auprès des privés tels que Vostro, à des prix quand même exorbitants, alors qu'elle peut elle-même vendre ses courants et faire des bénéfices. Hermione Bolumbe veut également savoir les raisons qui font que 12 des 13 départements de la SNEL soient sous gestion des intérimaires, limitant ainsi leur champ d'action dans la gestion de plusieurs projets importants.
On a fait beaucoup de temps sans pour autant avoir des directeurs dans plusieurs départements. Vous avez des grands départements, par exemple les finances, il n'y a aucun directeur. On se pose des questions, comment une entreprise peut fonctionner comme ça?
Pour elle, son souci majeur est de voir cette entreprise du portefeuille de l'État améliorer non seulement sa gestion, mais également sa desserte en électricité à travers le pays. Pour rappel, il y a 3 mois, Hermione Bolumbe avait posé une autre question écrite au directeur général de la SNEL, qui, selon elle, n'avait pas apporté des réponses appropriées à ses revendications.
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, situation sécuritaire volatile dans le territoire de Kasongo, dans la province du Maniema. L'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial s'en préoccupent. Une mission conjointe séjourne à Kasongo pour rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Un appel est lancé à tous les sèmeurs de troubles à privilégier la paix. Écoutez à ce sujet le député Victor Kikuni dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
C'est une délégation en mission à Kasongo pour évaluer le niveau de la sécurisation de la population de Kasongo, mais aussi restaurer l'autorité de l'État. D'abord, il faut reconnaître que les auteurs de cette insécurité ici à Kasongo se présentent comme étant des Wazalendo qui, de par l'esprit et la lettre de l'ordonnance du président de la République instituant la défense nationale, nous n'avons trouvé personne qui remplit les conditions pour être appelé Muzalendo. De deux, au lieu que ces compatriotes-là se mettent au service de la population, au service de la nation, pour défendre le pays, pour défendre les intérêts de la population, cela s'arroge le pouvoir de malmener la population, de tracasser la population et pourquoi pas d'extorquer même les biens de la population au nom et pour le compte d'un mouvement soi-disant Wazalendo. Wazalendo qui, d'après nous, n'existe pas ici dans le territoire de Kasongo. Notre message, c'est d'abord le message de compassion. Étant donné que la population de Kasongo souffre, la population dans l'impossibilité de vaquer librement à ses occupations à cause de l'insécurité. Notre deuxième message, c'est de dire à nos frères résumé Wazalendo, d'abandonner ce mouvement-là et de revenir au bon sens, afin qu'il contribue à la paix et au développement de notre territoire.
En Ituri, environ 700 cultivateurs ont regagné leur village d'origine depuis une année et vaquent librement à leurs activités dans la chefferie de Wallis et Vankoutou au sud d'Iromou. C'est le résultat de l'accord de paix et de cohabitation pacifique signé en 2023 entre les communautés locales jadis en conflit grâce à l'appui de la MONUSCO. Constat fait lundi au cours de l'atelier d'évaluation de cet accord, travaux qui ont réuni les chefs coutumiers et notables des communautés Nandé et Lessé à Komanda. Le compte-rendu de Ezekiel Mouzalia.
Les communautés Lessé et Nandé au sud du territoire d'Irumou ont résolu d'enterrer les différends qui les opposent, notamment autour de la gestion des terres, surtout dans les groupements Bokutu et Bandiangou dans la chefferie de Wallis et Vankoutou. Des divergences qui avaient dégénéré en violence avec comme conséquence des pertes en vies humaines, l'incendie des maisons et les déplacements des populations. Selon le président de la société civile locale, les deux communautés vivent désormais ensemble en harmonie. Dieudonné Malangaï.
On vient de déatifier 1024 cultivateurs. Nous venons de faire rentrer 708 cultivateurs dans leur champ et aujourd'hui ils sont sur terrain et sont en train de cultiver. Il y avait la division auparavant, mais pour le moment, la cohabitation est renforcée.
L'administrateur du territoire d'Irumou salue cette prise de conscience qui augure d'une paix durable dans la région. Le colonel Siro Simba invite les deux communautés à préserver les acquis de cette paix.
La chefferie de Wallis et Vankoutou, pour moi, c'est la chefferie martyre. Avant, les Lessé Nandé, c'était communautés à couteau tiré. Maintenant, elles sont ensemble. Ça donne notre force.
Plus de 70 villages jadis vidés de leurs habitants sont de nouveau habités grâce au dialogue communautaire et aux opérations conjointes contre les rebelles des ADF dans la région. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Merci de nous recevoir à Beni au Nord Kivu. L'école primaire Moulekia, située dans le quartier Sayo, a rouvert ses portes après une relocalisation temporaire à Boutili. C'est en réponse à l'insécurité causée par une attaque des EDF en avril dernier. Bien que les cours aient repris, le directeur de l'établissement alerte sur les conditions précaires des enseignants, nouvelles unités qui dépendent des contributions de leurs collègues pour survivre. Il appelle les autorités à accélérer la mécanisation de ces enseignants pour une prise en charge adéquate. Marc Marofimbo s'est rendu sur place. Voici son reportage.
Les objets techniques, oui.
Il y a les motos.
Là,
la moto.
Il y a la moto, par exemple. Hein.
Malgré la reprise, de nombreux élèves sont encore déplacés dans les quartiers Ngongolio et Boutili et parcourent plus de 5 km pour assister aux cours à Sayo. Mais les problèmes majeurs restent la prise en charge des enseignants, nouvelles unités dans cette école, la seule encore en activité dans les quartiers, comme l'explique Valentin Paloukou, directeur de l'établissement.
Nous avons 5 enseignants qui sont payés par le gouvernement et les 2 autres là sont des NI. Ils sont en train d'attendre patiemment les postes à pourvoir mentionnés sur les listes de l'école. Dès que les postes à pourvoir seront payés par le gouvernement, ils auront la chance aussi d'être payés. Mais actuellement, ils souffrent, ils reçoivent ne fût-ce que 40 000 francs congolais à la fin de chaque mois. Et puis, ces 40 000 francs, ça provient de leurs collègues enseignants qu'ils aident. Et vous voyez, la situation est très compliquée. Un enseignant ne peut pas payer un autre enseignant.
À ce jour, l'école Moulekia accueille 70 élèves répartis dans 6 salles de classe, loin des 400 élèves inscrits avant l'attaque. La majorité des élèves et leurs familles demeurent encore dans leur lieu de refuge. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Direction le sud Kivu, dans le territoire de Mwenga. Cela fait plusieurs semaines que les véhicules ont du mal à atteindre la ville de Kamituga. Cela est dû au délabrement très avancé de la nationale numéro 2 vers la place appelée Muzele, où un grand bourbier immobilise plusieurs véhicules en ce moment. Rachel Kiesse revient sur cette situation qui met à mal la population de la ville de Kamituga en particulier et celle du territoire de Mwenga en général.
Quitter Kamituga et arriver à Bukavu, cela peut prendre 2 à 3 jours pour un parcours d'environ 170 km seulement. Cette route présente des bourbiers, des ponts effondrés et les véhicules sont bloqués. Un habitant de Kamituga revient sur cette situation, Basubi Ombeni.
Cette partie-là est appelée Mzele, qui fait à ce que les camions ne puissent pas atteindre Kamituga. Les camions souffrent. Avant de passer là-bas, c'est vraiment un problème. J'y étais, pour moi, c'est grave, c'est pire qu'avant. Pour qu'un camion puisse passer là-bas, vraiment, il vous faut au moins 4-5 jours et parfois une semaine. Là, j'ai compté plus de 150 camions. Et c'est ça qui fait assez Kamituga aujourd'hui, que les gens meurent de faim. Peut-être quand ils vont suivre nos voies, plus aérées, peut-être qu'ils nous viendront en aide pour la réhabilitation de cette route nationale numéro 10. Qui a été fixé à 70 000 francs. Actuellement, le prix du transport passe jusqu'à plus de 150 000 francs. Parce qu'il faut prendre d'abord la moto de Kamituga à Kibumba, prendre la voiture et Kibumba juste à Bukavu.
C'est une situation qui impacte les prix de produits sur le marché à Kamituga. Transport, bière, sucre et autres biens ont vu leur prix augmenter ces derniers jours. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi l'ouverture hier à Kinshasa des travaux du symposium de partage d'expériences sur la mise en œuvre du plan d'action national de la 1325 deuxième génération et la validation du plan d'action de la troisième génération. Cette activité est organisée par le ministère du Genre, Famille et Enfants avec l'appui de ses partenaires. Ce colloque a prévu l'axe stratégique sur la prévention, la participation, la protection, le relèvement et sur la lutte contre les conflits émergents. Prennent part à ce rendez-vous. C'est des délégations venues de la Côte d'Ivoire, du Burundi et de 11 provinces de la RDC. Celle du Mali suit les travaux en ligne. Esther Kamwanya Biaï, secrétaire générale au ministère du Genre, explique au micro de Moïse Lindombe.
Excellences, Monsieur l'Ambassadeur ici représenté, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos titres et qualités, comme vous pouvez le constater, les trois jours que nous passerons ensemble sont des moments importants qui nous permettra de faire le bilan, de palper les résultats réels atteints, les défis rencontrés et les perspectives dans le but de bien contribuer à la consolidation de la paix de manière inclusive. Le présent symposium ne consiste pas seulement au partage d'expériences, comme on vous l'a dit. Il sera également question de procéder à la validation technique du plan d'action national de la résolution 1325 de troisième génération. Et également, il sera question de la célébration du 24e anniversaire de la résolution 1325.
Actualité internationale.
Guerre au Soudan, cela fait 7 mois jour pour jour que les combats font rage autour et dans la ville d'El Fasher, la capitale du Darfour Nord et la dernière grande ville de la région à être encore sous le contrôle de l'armée soudanaise. La ville est totalement assiégée par les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR et selon un rapport de l'université américaine de Yale, la ville pourrait tomber aux mains des FSR à tout moment.
L'invité.
À Goma, une dizaine de journalistes locaux de la presse écrite et audiovisuelle sont à l'école de la lutte contre la désinformation pour la Fondation Hirondelle qui organise cette formation au regard des tensions politiques et sociales exacerbées par la manipulation et la propagation des fausses nouvelles. Il est crucial que les journalistes soient outillés pour analyser les informations et révéler la vérité. Pour en parler, nous recevons Francis Albert Kangwem, représentant de la Fondation Hirondelle en RDC. Il s'entretient avec Sifa Maguru.
Bonjour, monsieur Francis.
Bonjour.
Alors, vous avez organisé un atelier de capacitation des journalistes locaux de la presse audiovisuelle et écrite sur la lutte contre la désinformation. Qu'est-ce qui a motivé cet échange entre journalistes? Quel est le problème que vous avez constaté?
Vous savez, la désinformation, surtout celle orchestrée par des acteurs étatiques ou leurs affiliés, est une menace sérieuse pour la démocratie et la paix sociale en RDC et partout ailleurs. Parce que, vous savez, lorsque des fausses informations sont diffusées de manière intentionnelle, cela peut déstabiliser la société, semer la méfiance entre les communautés et affaiblir la confiance du public envers les médias. À RDC, donc, où les tensions politiques et sociales sont souvent exacerbées par la manipulation de l'information, et spécifiquement dans un contexte d'état de siège, il est essentiel que les journalistes soient bien équipés pour reconnaître ces campagnes de désinformation et pour y répondre de manière efficace. Donc, à travers cette formation, on leur donnera les compétences pour analyser les informations de manière critique et pour révéler la vérité même lorsque la désinformation provient des sources influentes.
Et pour comprendre comment la Fondation Hirondelle, votre organisation, est impliquée par rapport à la problématique de la désinformation en RDC.
Oui, vous savez, notre mission est de promouvoir un journalisme indépendant et éthique. Et cela inclut, n'est-ce pas, de contrer les formes de désinformation qui peuvent déformer la réalité ou instrumentaliser l'information à des fins politiques. Donc, à travers notre programme ici en RDC, nous mettons en œuvre ce projet-ci qui nous rassemble aujourd'hui, qui est financé par l'ambassade des États-Unis et qui vise donc à renforcer la résilience des médias, spécifiquement des journalistes, pour qu'ils puissent mieux répondre, n'est-ce pas, à cette campagne de désinformation orchestrée par les acteurs non étatiques ou leurs affiliés. Et donc, à côté de cette action précise financée par l'ambassade des États-Unis, nous avions actuellement un autre programme qui est financé par l'Union européenne, qui vise aussi à renforcer l'intégrité de l'information. Et nos actions antérieures nous ont permis ainsi de former plusieurs autres journalistes dans plusieurs provinces de la RDC, d'organiser des campagnes d'éducation aux médias et d'appuyer, n'est-ce pas, la production des contenus par les médias locaux pour qu'ils puissent donc des contenus qui contrent, n'est-ce pas, à la désinformation et qui sensibilisent le public sur la nécessité de vérification des faits en RDC. Et cela se fait à travers notre cellule de fact-checking basée au studio Hirondelle qui produit donc des contenus de façon hebdomadaire, qui organise des activités sur le terrain pour rapprocher les communautés et les sensibiliser sur la thématique de la désinformation et des discours de haine.
En suivant les débats, il s'est avéré que la pratique de toutes ces, ces notions qui sont données aux journalistes demandent d'une certaine manière le moyen. Et quand on parle de moyens, on voit l'accès à l'Internet. Mmh. Et au regard des réalités, au niveau local, la presse locale, c'est pas tous les journalistes qui ont un bon accès à l'Internet, alors que c'est la base même hein, pour pouvoir utiliser tous les programmes pour vérifier la qualité des informations. Est-ce que dans ce sens, vous comptez faire quelque chose pour appuyer la presse afin que cette formation ne puisse pas rester lettre morte?
Oui, vous posez là une bonne question qui soulève, n'est-ce pas, la nécessité d'avoir une approche holistique pour répondre à ces questions-là. Et en tant que Fondation Hirondelle, nous appuyons aujourd'hui également d'autres médias en termes, n'est-ce pas, de matériel et en termes, n'est-ce pas, de soutien à la production. Et pour parler de ce cas précis, puisque nous attendons que, à la fin de cette formation, les journalistes que nous formons puissent devenir des sentinelles de la vérité, en particulier face à ces campagnes de désinformation. Donc, pour nous, cette initiative est une initiative pilote qui est pour nous un point d'entrée pour un programme plus vaste. Pour cette formation, nous mettons un accent sur les technologies de l'intelligence artificielle, les deepfakes. Et on ne peut pas donc faire ce monitoring-là sur l'Internet si on n'a pas le minimum pour le faire. Pour nous, il est nécessaire, hein, comme vous l'avez reconnu, d'avoir une autre action qui puisse donc complémenter cela.
Merci beaucoup, monsieur.
Je vous en prie.
Le représentant de la Fondation Hirondelle en RDC répondait aux questions de Sifa Maguru. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.